constellations ?
Il y en a plusieurs.
Il y a la Vierge, la casserole.
La casserole ?
Oui, la grande ours.
La grande ours.
Et des planètes, vous en connaissez ?
La Terre, Mars, Vénus,
Uranus.
Et Neptune.
Mon père, il s'intéresse tellement à l'espace que je suis obligée de tout savoir au bout d'un certain temps.
Moi, je connaissais que l'étoile du berger avant.
À part l'étoile polaire, c'est le seul truc que je connaissais.
Elle est très berger, c'est Vénus.
C'est la plus lumineuse, l'étoile du berger.
Il y a aussi l'étoile qui est juste à côté de la Lune, c'est Jupiter.
Moi, j'aimerais bien aller sur une autre planète, voir s'il y a des personnes
qui parlent français.
Parce que s'ils parlent anglais, c'est pas marrant.
Le soleil.
Mars.
Mais que si on est protégé des tempêtes.
Pourquoi il y a des tempêtes de sable sur
Mars ? Bah pour la gravité aussi, ça doit être bien de sentir son poids.
J'aimerais bien faire le moonwalk dans l'espace, genre on tourne comme ça.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je t'aime jusqu'à la lune. Vous faites peut-être partie de ceux et celles qui emploient cette phrase. C'est un grand classique de la relation parent-enfant. Bon, vous avez aussi le droit de la trouver niaise, n'en écoutez pas les autres. Mais au fait, l'amour jusqu'à la lune, ça fait combien d'amour ? Est-il loin, ce satellite de la Terre qui souvent fascine les enfants ? Loin comment ? Loin combien ? Vous l'avez su, bien sûr, et puis vous avez oublié. L'intérêt des enfants pour l'espace, les planètes, le soleil, tout ce qui est au-dessus de nos têtes est souvent immense, c'est un réservoir à questions colossales. Et les adultes, parfois, ne savent pas répondre parce que les connaissances apprises à l'école semblent aussi loin que Neptune et c'est dommage. Alors j'ai invité aujourd'hui deux passionnés qui savent vulgariser et raconter des histoires. Ils vont vous donner, chers parents, des trucs et des astuces pour encourager la curiosité spatiale de vos enfants, pour en faire une porte d'entrée vers la connaissance. Inutile de préciser que les enfants eux-mêmes ont le droit de nous écouter aussi. C'est parti, le système solaire à hauteur d'enfant.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Une émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, réalisée par Christophe Imbert, préparée par Margot Page. Nicolas Delmas est à la technique. Deux invités avec moi en studio. Bonjour Christophe Gelfard.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes physicien et écrivain. Vous êtes l'auteur d'une trilogie pour les jeunes lecteurs et lectrices. Le Prince des Nuages, édition PKJ. Vous avez été l'élève de Stephen Hawking, avec qui vous avez d'ailleurs écrit un livre pour enfants aussi, Georges et les secrets de l'univers. Vous animez régulièrement des conférences dans les cinémas MK2 à Paris, dont certaines sont spécialement conçues pour les enfants, des voyages à la découverte du cosmos. Il nous faut une réponse tout de suite, s'il vous plaît, Christophe Gelfard. Distance de la Terre à la Lune ?
Environ 380 000 km, mais ça bouge. Elle s'éloigne de nous, cette petite Lune.
La Lune se trouve en effet à 384 000 km de la Terre. Si on pouvait y aller en TGV, ça prendrait un mois et demi. Et ça, je l'ai appris dans l'un de vos livres, Anne Jankeliovitch. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, autrice de livres jeunesse de sensibilisation sur la nature, l'environnement et l'espace, et notamment cette merveille aux éditions La Martinière Jeunesse, Pop-up Lune, c'est le titre. C'est un livre en relief dont les doubles pages se déploient quand on les ouvre. On vous doit aussi un bouquin phosphorescent à lire sous les étoiles qui s'appelle Constellation, La Martinière Jeunesse également. Cette question des distances, des échelles de grandeur, est-ce que vous avez à cœur de la transmettre aux enfants ?
Oui, mais pas forcément sous forme de chiffres, un peu sous forme de fascination et de portes ouvertes pour un certain vertige. Et je pense qu'on le ressent nous aussi quand on regarde le ciel, quand on lit ces informations, quand on se dit si je devais aller sur Mars dans ce TGV, il faudrait que je reste plus de 80 ans dedans.
Et là, alors que la Lune, c'est un mois et demi, c'est rien finalement.
En TGV, il vaut mieux aller sur la Lune. Voilà, donc plus accepter ce vertige et qui nous ramène finalement à notre toute petitesse, notre insignifiance là sur cette planète, qui est bonne aussi à avoir à l'esprit.
C'est ça aussi l'intérêt des échelles de grandeur, c'est de se figurer l'infiniment petit que nous représentons, nous, êtres humains.
Tout à fait, dans un univers qui plus est en expansion, ce qui est quand même déjà une notion assez difficile à appréhender.
1 million de planètes Terre pourraient tenir dans le Soleil. Ça aussi, je l'ai appris dans l'un de vos livres et c'est éclairant comme échelle de grandeur.
Oui, tout à fait. De toute façon, toutes ces échelles, dès qu'on s'intéresse à l'univers, on n'a aucune référence dans notre échelle humaine, que ce soit sur la durée de notre vie, sur les distances qu'on est capable de parcourir nous, sur la capacité intellectuelle de se projeter dans un futur qui est forcément proche. On n'a pas les références pour comprendre quoi que ce soit. On a déjà du mal à se représenter la distance de notre satellite naturel, la Lune, alors que voilà, dans l'univers, c'est tellement insignifiant. Donc oui, effectivement, toutes ces mesures, elles nous dépassent.
Et de se projeter dans des chiffres avec autant de zéros, honnêtement, c'est impossible, même pour les scientifiques. En revanche, ce qui est possible, c'est de comparer des chiffres ou de voir ce qu'on peut faire dans telle chose, dans ce tel temps, telle distance, est-ce que c'est accessible, combien de temps la lumière a mis pour traverser telle quantité d'espace. On réalise petit à petit, en découvrant l'espace, là, depuis une centaine d'années, que nous, on habite dans un petit cocon d'espace et de temps qui est le nôtre, qui est notre maison, notre réalité à nous, qui est entouré, perdu, si on a envie de dire, mais entouré, j'aime bien, d'une réalité gigantesque qu'on découvre petit à petit. Et je pense que les enfants adorent se projeter à l'intérieur de ces découvertes-là en gardant le côté cocon, à la fois de l'endroit d'où ils partent et de l'endroit où ils se projettent.
Les paroles d'enfants qu'on a entendues en introduction de cette émission ont été enregistrées à Rennes. On va entendre tout à l'heure le reportage en longueur de Juliette Proutot au Planétarium de Rennes. C'est Barbatruc jusqu'à 16h. C'était Clara Luciani sur France Inter, Amour toujours. Une exploration du système solaire cette semaine dans Barbatruc. Nous tâchons de voir comment répondre en tant que parents à la curiosité spatiale des enfants avec Christophe Galfard, physicien, et avec Anne Jankeliewicz, autrice de livres jeunesse. J'aimerais qu'on marche sur la Lune d'abord, ou en tout cas sur l'intérêt des enfants pour la Lune. Les tout-petits, en particulier, cette fascination, l'idée qu'elle revient tous les soirs, qu'elle n'est jamais la même. C'est on a rendez-vous avec elle.
C'est pour ça qu'elle nous fascine, parce que on peut la voir, on peut assez facilement
facilement deviner ses mères, elle est beaucoup plus réelle que toutes ces choses dont on parle et qui sont justement tellement loin, comme on le disait tout à l'heure. Et puis voilà, on peut la voir sans télescope, on peut la voir en ouvrant sa fenêtre, on peut la voir en famille, et on peut justement la retrouver tous les soirs, la voir grandir, la voir après rapetissir de nouveau, et tout ça c'est un vecteur de rêve absolument formidable.
Et on peut la découvrir dans ce magnifique bouquin Pop-up Lune que vous avez co-signé avec Olivier Charbonnel et Annabelle Buxton. C'est un livre en relief, je le disais, qui se déploie. D'où vient l'idée de ce livre ? Il fallait du relief pour raconter la Lune.
C'est un bon support pour l'imagination, pour aller encore plus loin, au-delà de la lecture, puisque là on peut carrément partir dans avec les premiers hommes qui ont marché sur la Lune.
Il y a une double page en particulier, je la montre à Christophe Galfard. On ouvre et le système solaire en entier se déploie sous nos yeux à la verticale, c'est magique. Comment est-ce qu'on parle de la Lune aux enfants ?
Alors, ce qui est génial avec ces astres qu'on peut voir dans le ciel, c'est qu'on peut s'inventer un peu n'importe quelle histoire, moi je trouve. Le côté scientifique qu'on peut avoir derrière a pas du tout besoin d'exclure tous les mythes, toutes les histoires qu'on peut se raconter depuis que, ou même notre ressentiment en voyant ça. Les mers dont parlait Anne il y a quelques instants, on peut se dire que c'est de l'eau, c'est ce qu'ont fait nos ancêtres.
Mais en fait non.
Aujourd'hui on sait que non. Pendant très longtemps, des gens ont cru qu'il y avait là-haut des mers, des océans, de l'eau liquide, peut-être même des poissons qui étaient là-haut.
Elles portent de jolis noms d'ailleurs, ces mers. Mer des pluies, mer des tempêtes, mer des vapeurs, mer des humeurs.
Aujourd'hui, on sait que ça c'est des taches noires qu'on peut voir à l'œil nu. Hein. Et on sait aujourd'hui que ce sont des mers, certes, c'était des mers, certes, mais de lave, pas d'eau. La façon même dont elle est née est d'une violence fabuleuse, où on a une autre planète de la taille de Mars à peu près, que les scientifiques ont appelée Theia, qui se serait scratché dans la Terre au tout début de son existence et qui en aurait arraché un bout, les deux se seraient mêlés et auraient formé ensuite la Lune dans l'espace qui au départ était beaucoup plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais à force de tourner autour de nous en se formant, etc., ça a créé un vrai petit couple. La Terre et la Lune, c'est un petit couple dans l'espace. C'est notre petite famille à nous, c'est notre petite sœur ou notre petit frère qui est là juste à côté de nous et on s'est adapté. La Terre tourne moins vite maintenant qu'elle ne tournait sur elle-même avant. Les journées durent plus longtemps parce que la Lune s'éloigne de nous. Et dans cet équilibre qui s'est créé, la Lune s'est stabilisée et ne nous présente plus jamais qu'une seule face. C'est-à-dire qu'il y a toute la moitié de la Lune qui ne voit jamais la Terre.
C'est très frustrant, ça, tout de même, de s'imaginer qu'il y a un côté qu'on ne voit jamais.
Mais je trouve que c'est pas mal de se dire qu'il y a des endroits à partir desquels on ne voit jamais la Terre non plus. Et on a même des petites découvertes récentes, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a posé une sonde sur la face cachée de la Lune. C'était un exploit chinois de l'agence spatiale chinoise qui y a mis un petit rover là-bas et c'était la première fois qu'on arrivait à prendre des photos depuis la surface de la Lune. C'était en janvier 2019. On a l'impression qu'on sait tout ça depuis des milliers d'années. Non, c'était vraiment il y a 2-3 ans maintenant.
Un petit rover, c'est un petit robot donc, hein, c'est
ça ? Un petit robot qui peut prendre des photos, qui peut analyser le sol, qui peut regarder et discuter avec un autre satellite qui est au-dessus pour nous envoyer des images à nous de là-bas.
C'est l'unique satellite naturel de la Terre et on a un seul satellite naturel qui nous tourne autour. C'est très frustrant ça parce qu'il y a beaucoup de planètes qui ont beaucoup de satellites, Anne Jankeliovitch.
Ah oui, bah notamment les planètes gazeuses, les plus grosses, Jupiter et Saturne, qui ont jusqu'à 60 lunes. C'est génial ça, on s'imagine le soir voir 60 lunes qui se lèvent dans le ciel. Moi ça me fait rêver.
Quelle histoire ça permet de raconter aux enfants, la Lune et ce rendez-vous quotidien justement ?
Ces temps d'échange-là qu'on peut avoir avec des enfants en regardant le ciel, c'est vraiment des moments privilégiés. Alors souvent parce que on se rend compte que nous en tant qu'adultes on sait finalement pas grand chose et on n'a pas beaucoup de matière pour répondre aux questions, mais c'est pas très grave. L'important c'est de regarder ensemble, c'est de partager des sensations comme moi j'ai une de mes deux filles qui est née au mois d'août et on aime bien faire la nuit des étoiles filantes, c'est un peu le rendez-vous de son anniversaire et ça rate jamais quand on regarde le ciel. Il y a toujours cette histoire qui revient de justement du fait des grandes distances qu'il y a pu y avoir des étoiles qu'on voit aujourd'hui, en fait elles n'existent plus parce qu'elles sont éteintes, mais le temps que la lumière a mis à nous parvenir, et souvent elle me coupe, elle me dit arrête, ça me fait peur.
Ça fait peur.
J'ai pas envie qu'on en parle. Et alors on parle d'autre chose. Mais c'est super parce que c'est le vertige dont je parlais tout à l'heure. Et après, voilà, on partage ce moment. Et puis nous, ça nous interpelle aussi en tant qu'adultes. On se dit, mais oui, mince, c'est vrai quand même. On est là en train de regarder des étoiles qui peut-être ne sont plus là. Et tout ça, voilà, nous dépasse complètement. Et moi, j'aime beaucoup cette sensation.
Même si ça fait peur quand on n'a pas les réponses.
Tout à fait. Christophe Galfard.
Bah justement, c'est bien dit ce que vous venez de dire, quand on n'a pas les réponses. Y a une partie des peurs, je pense, même par rapport à la nature ou par rapport à la vie en général, qui se dissipe un peu dès l'instant où on allume la lumière. C'est l'image du petit enfant qui a peur dans sa chambre le soir parce qu'il y a des monstres sous le lit. Bon, bah, les monstres, ils disparaissent dès l'instant où la lumière s'allume. Ils reviennent après. Pour toute la connaissance spatiale, pour toute cette partie des enfants et des adultes qui ont un peu peur de ces choses gigantesques, je pense que de plonger dedans, de prendre sa peur un petit peu à bras le corps et de réaliser que finalement, il y a énormément de choses qu'on sait. Ce n'est pas que mystère. Il y a un voile qui s'est levé ces dernières centaines d'années et qui petit à petit nous a donné accès à une réalité qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste, beaucoup plus belle encore que celle que connaissaient nos ancêtres. Et je pense que d'y faire un petit pas, à travers les livres d'Anne, à travers le planétarium, à travers d'autres livres de vulgarisation, ou votre émission, ça fait partie des choses qui, justement, éloignent les peurs. Et quand vous parlez d'être avec un enfant ou même avec des amis et de regarder le ciel le soir, il y a des petites choses qui ressortent et qui sont assez agréables. La première, c'est que on ressent un chez-nous en étant sur Terre, en regardant l'immensité de l'espace. Donc on se sent finalement bien protégé là où on est, c'est agréable. Et depuis cette protection, on peut regarder et se faire un peu peur et aller plus loin. On peut prendre des jumelles et regarder la Lune. Faut faire attention avec les enfants parce que si la lumière de la Lune est trop forte, ça peut faire mal aux yeux. Donc on fait gaffe avant de les mettre pour les enfants. Mais dès qu'on prend des petites jumelles et qu'on regarde la Lune, on voit les cratères qui sont là-haut. On se rend compte d'une histoire cosmique qui s'est déroulé avant nous et qui a permis notre existence. On peut viser... L'été, il y a deux étoiles qui semblent être plus brillantes que toutes les autres dans le ciel. Il se trouve que ce ne sont pas des étoiles, ce sont des planètes, c'est Jupiter et Saturne. Prenez les deux que vous voyez les plus lumineuses avec des jumelles, regardez-les. Une des deux est Jupiter et quatre planètes apparaîtront. J'ai dit planètes, quatre lunes, excusez-moi. Les quatre lunes, les plus grosses lunes de Jupiter, on les voit avec des jumelles en regardant vers le ciel. Et là, tout d'un coup, on peut se rendre compte qu'il existe des familles cosmiques et que la nôtre, c'est le système solaire. C'est notre petit voisinage, c'est notre maison à nous. Et disons que la Terre, c'est notre appartement dans la maison qu'est le système solaire, dans un espace encore plus vaste. Il y a quelque chose d'assez agréable là-dedans.
Et voilà, il n'y a plus aucun monstre sous notre lit, effectivement. On poursuit dans un instant cette exploration spatiale. J'ai un conseil musical d'abord. Voici une chanson qui fait du bien par les temps qui courent, une invitation à nous écouter les uns les autres et à parler moins fort.
Mais pourquoi tu cries ? Mais pourquoi tu cries ? T'es jamais
Alors que nos amis sont en pleine discussion sur les licornes, ils entendent devant eux un vacarme assourdissant. Des animaux courent, paniqués, bondissant dans tous les sens. Que se passe-t-il ?
Vous avez peut-être reconnu la voix de Checky Cario, c'est lui qui raconte cette histoire. Panique dans la forêt, voici un livre CD aux éditions Gallimard, c'est un conte musical. Histoire imaginée et composée par les Whipper Circus, groupe de chansons françaises aux accents rock. Le livre est illustré avec beaucoup de talent par Clotilde Perrin qui dessine à merveille les licornes. Une bande d'amis se perd dans une forêt interdite, ils y croisent un cyclope, des pirates de terre, des gentils méchants, une femme à barbe et un corbac qui joue aux cartes. Pour se sortir de cette forêt, ils vont devoir se serrer les coudes, mais surtout ne pas crier. Il y a du suspense dans cette histoire et beaucoup d'humour. Les styles musicaux sont joyeusement mélangés, du rock, de la pop, des chants de marins et même un peu d'électro. Vraiment, je vous invite à foncer dans cette forêt avec les Whipper Circus et le comédien Checky Cario. Le livre CD s'appelle Panique dans la forêt. Et pour écouter cette histoire en vrai, sachez que les Whipper Circus sont en tournée partout en France. Un spectacle à voir en famille à partir de 5 ans. Vous trouverez bien sûr les dates de concert sur notre site internet à la page de Barbatruc.
Barbatruc sur France Inter.
Sur France Inter, samedi à 15h.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Joy.
caressing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blinded as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change.
Les Beatles, évidemment, sur France Inter. Across the Universe, un titre de 1970. Anne Jankeliovitch et Christophe Galfard sont les invités de Barbatruc, le rendez-vous des parents, les planètes, l'espace et le système solaire à hauteur d'enfant cette semaine. Alors, je me souviens d'une phrase que j'ai apprise par cœur quand j'étais enfant. Un moyen mnémotechnique pour retenir l'ordre des planètes. Mon vieux théâtre me joue souvent une nouvelle pièce. Chaque mot commence par la même lettre qu'une planète et ça donne l'ordre en partant du soleil. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Sauf que Pluton n'est plus une planète, Christophe Galfard, et ça n'est pas sympa pour mon moyen mnémotechnique.
Non, c'est là où on peut savoir du coup...
Quel âge j'ai.
Quel âge, voilà, exactement. On peut avoir les différentes générations suivant ceux qui pensent que Pluton est encore une planète, ceux qui sont déçus qu'elle ne soit plus une planète.
Alors pourquoi diable ?
Ben, tout simplement parce que d'autres... astres ont été trouvés dans l'espace qui avaient plus ou moins la même taille que Pluton, voire plus grand. Dans l'espace, je veux dire, autour du Soleil, dans notre petite famille du système solaire. Et soit on en rajoutait plein à la mémoire des enfants que
ça
vous
faisait
étiez.
Une très longue phrase.
Soit on a changé, on a introduit une nouvelle catégorie qui s'appelle les planètes naines, qui sont une sorte d'intermédiaire entre les deux. En fait, la définition d'une planète... Il y a trois choses. Il faut qu'elle soit autour du Soleil. Bon, ça, Pluton, c'est bon aussi. Il faut qu'elle soit ronde. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit suffisamment grande. Quelque chose qui n'est pas assez grand, la gravité n'est pas assez forte, ça devient une patate. Pour être rond, il faut qu'il y ait une gravité suffisante. Les astéroïdes, c'est des patates, c'est pas des planètes. Et la troisième chose, il faut qu'en tournant autour du Soleil, dans son orbite, cette planète candidate ait nettoyé plus ou moins toute son orbite des saletés qui pouvaient traîner là. C'est pas le cas pour Pluton. Il y a encore du boulot. Du coup, elle est trop petite et n'ayant pas tout nettoyé, elle ne coche pas cette troisième case. C'est une planète naine.
Vous avez une autre phrase du coup pour retenir l'ordre des planètes ?
Bah, on enlève le dernier mot.
Voilà,
de votre
donc
phrase.
Ça donne par exemple mon vieux, tu m'as jeté sur un nuage. Ça marche aussi. On peut en inventer bien sûr. Mon voisin Totoro, moi je suis un ninja. Voilà, une phrase à retenir par cœur pour connaître l'ordre des planètes. Quelle est votre planète préférée du système solaire, Anne Jankeliovitch ?
Moi, je les aime bien toutes.
Vous n'avez rien contre les patates, vous, au moins.
Non. Et d'ailleurs, on parle des formes patatoïdes.
Patatoïdes, c'est magnifique.
Moi, j'aime bien Vénus parce que je crois qu'elle est... Elle est terriblement peu hospitalière et elle est un espèce de décor du pire roman de science-fiction qu'on peut imaginer ou de la pire bande dessinée de science-fiction. Et moi, je trouve ça génial.
Mais c'est la sœur jumelle de la Terre, cette Vénus, qui est aussi l'étoile du berger. Hein. Quand on voit l'étoile du berger dans le ciel, en fait, c'est pas une étoile, c'est une planète.
Et oui, c'est une planète, donc elle ne produit pas sa propre lumière, elle ne fait que renvoyer la lumière du Soleil. Et comme elle est assez proche de nous et du Soleil, parce qu'elle est même plus proche du Soleil qu'on ne l'est nous, elle apparaît très rapidement après le coucher du Soleil et pareil avant le lever du jour. C'est celle qu'on voit en dernier et en premier, et c'est pour ça qu'elle porte ce nom d'étoile du berger.
Et alors, c'est quoi le scénario de votre film de science-fiction, là?
Ah, il faudra des bons scaphandres pour survivre sur Vénus,
pour se faire une petite cabane.
Il n'y a qu'une seule entreprise qui a réussi à emmener des rovers, justement, à la surface de Vénus, qui sont russes. C'était le programme Venera dans les années 70. Et les conditions étaient tellement extrêmes à la surface de Vénus, les enfants adorent quand je raconte cette histoire dans les écoles, les conditions étaient tellement extrêmes qu'ils avaient fabriqué des chambres à pression mais colossales sur Terre, où ça poussait pour être sûr que le satellite qu'ils envoyaient là-bas, le rover qu'ils envoyaient là-bas, tiendrait sur la surface de Vénus. La première fois qu'on a eu une photo de la surface de Vénus, je crois que c'était en 1975, c'est Venera 9, il me semble, le rover a tenu 57 minutes avant d'être écrasé comme une crêpe et de ne plus ressembler à rien du tout. Et il nous a envoyé une image, mais le mât avait fondu. Du coup, la caméra pointait vers le sol et on ne voyait qu'un tout petit coin de ciel dans un coin.
Là, la photo était un peu ratée, vous voulez dire.
Mais c'était une photo depuis la surface de Vénus. Pour vous donner une idée, la moyenne de température, c'est plus 457 degrés. Et c'est à peu près l'équivalent d'une bonne vingtaine d'éléphants, peut-être même plus, même peut-être 40 éléphants qui sont debout les uns au-dessus des autres sur vous.
Ah, revoilà des comparaisons et des échelles de grandeur comme on les aime. Effectivement, c'est pas top pour la cabane, donc, Vénus.
Non, pas trop.
Allez, je vous emmène au Planétarium, à présent musée consacré à l'astronomie. Il y en a beaucoup en France. Notre reporter Juliette Proutot a fait un tour au Planétarium de Rennes pour assister à une séance avec des scolaires, des élèves de CM1, CM2. Alors, l'intérêt, c'est que chaque séance est unique. Le médiateur ou la médiatrice choisit les visuels, les images, les données en fonction du sujet et en fonction des questions ou des connaissances des enfants qui sont présents et il les commente en direct.
C'est un écran complètement arrondi, ça fait comme un globe au-dessus de nos têtes. Ça va commencer. Je peux me mettre là. Merci.
Alors, bienvenue à tous dans notre planétarium. Ensemble, ce matin, nous allons nous intéresser en particulier au phénomène des saisons. Pendant la séance, moi je me trouve là-haut, juste derrière vous, derrière le dernier rang. C'est là-haut que je vais piloter le simulateur astronomique du planétarium. Je vais choisir les thèmes qu'on va aborder, les régions de l'espace qu'on va aller visiter. On commence à apercevoir les premières lueurs du jour, ça commence à nous éblouir, à nous empêcher de bien voir les étoiles. À votre avis, où le soleil va-t-il se lever demain matin?
À l'est.
À l'est. Vous pensez qu'il va se lever pile à l'est, là? Au sud-est, par là. On va voir. Vers 9h, le soleil va
apparaître. Le soleil se lever.
À votre avis, quel est le jour de l'année où l'on voit le soleil le moins longtemps dans le ciel? Le solstice d'hiver, le 21 décembre, effectivement, on va voir peu le soleil. On le voit seulement 8 heures dans le ciel. Alors, dans une journée, il y a combien d'heures déjà?
24.
Alors si sur 24 heures, on voit le soleil pendant seulement 8 heures, ça veut dire qu'il va faire nuit pendant combien de temps?
16 heures.
Et pendant 16 heures. Ça va être la nuit la plus longue de l'année.
Alors là, on est de nouveau dans l'espace, avec un ciel étoilé, on voit la Voie lactée, on voit la Terre au loin, avec le Soleil, et on voit aussi l'axe de rotation qui est dessiné, l'axe de rotation de la Terre autour du Soleil. Oh là là, là on nous pose, on atterrit sur les anneaux de Saturne. Super impressionnant. Ça y est, on plonge, on arrive entre les petits cailloux, les petites poussières. Hop, on est en dessous.
Regardez la couleur des rochers.
relativement quand même assez blanc, assez clair, parce qu'ils sont en bonne partie composés de glace, de neige en quelque sorte. Cette sorte de neige a tendance à très bien réfléchir, très bien renvoyer la lumière du soleil. Ça fait un peu comme si c'était plein de miroirs qui tourneraient autour de ça.
Oui, là on a l'impression d'être dans un parc d'attractions, on avance vite parmi tous les cailloux, toute la poussière, et ça donne un peu envie de baisser la tête.
Je souhaite à Juliette un bon retour sur Terre.
Elle est à fond, notre reporter Juliette Proutot. Son enthousiasme donne envie de se précipiter au planétarium de Rennes, que vous connaissez aussi, Christophe Galfard. Vous recommandez ?
Ah oui, oui, il est vraiment très beau. C'est la personne qui fait le show a la liberté de se balader un peu où il ou elle veut dans l'espace. C'est très fluide, c'est très agréable.
Et les enfants, à présent, qu'en ont-ils pensé ?
C'était bien ?
Mystérieux.
Mystérieux ?
Ouais, un peu.
T'as appris quoi ?
Qu'il avait de la glace sur les cailloux autour de la planète.
Ça nous a appris plein de choses.
Bah, c'est grâce au soleil et à la Terre qu'on a des saisons.
C'était bien, je trouvais que c'était original. Je savais pas que Neptune, il y avait des bris de glace qui tournaient autour.
Et devant, ça vous a plu, vous ?
Oui.
Oui.
Bah, c'était bien.
Qu'est-ce que vous avez préféré ?
La Terre tourne sur elle-même et c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre.
Les différentes saisons, le Soleil il est pas au même endroit.
Par exemple, en été, il éclaire plus qu'en hiver. On va dire en automne et en...
C'est que la Terre elle est inclinée, ça fait différentes saisons.
Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser sur le ciel, sur les étoiles, sur les planètes ?
Pourquoi il y a des planètes qui sont plus grandes que d'autres, par exemple ?
Ouais,
ce serait ça. Et pourquoi il y en a qui sont plus proches, il y en a qui sont plus loin de la Terre ?
Et aussi, pourquoi les planètes sont de différentes couleurs ?
C'est l'océan, enfin, tu vois.
Ça dépend ce qu'il y a dessus.
Bah oui.
S'il y a de l'eau, ça va être bleu, logique.
Voilà, le planétarium de Rennes propose différentes séances pour les particuliers, enfants et adultes. Toutes les infos, bien sûr, sont sur leur site et vous trouverez un lien à la page de l'émission. Profitez-en, il y a des planétariums partout en France. On retrouve, Anne Jankeliovic, cette fascination pour ce qu'on ne comprend pas, dont vous parliez tout à l'heure, avec cet enfant qui dit « j'aime bien parce que c'est mystérieux ».
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils sortent d'une séance là au planétarium et visiblement, ils ont encore plus de questions après qu'avant.
C'est un puits sans fond, cette histoire. La diversité des planètes du système solaire, diversité de taille et de couleur interpelle ces enfants. Qu'est-ce qu'on leur répond, Christophe Galfard ?
Demandez à vos parents.
Mais ils ne savent pas.
Non, mais il y en a un qui l'a bien dit, ça dépend de leur composition, ça dépend s'il y a une atmosphère qui est plus ou moins grande, si on voit directement le sol, si on voit les nuages, ça dépend un petit peu de quoi elle est faite. Et c'est marrant parce que pendant très longtemps, on savait pas trop pourquoi justement il y avait ces grandes planètes, ces petites planètes, pourquoi elles sont là où elles sont. Il y a une partie du savoir astronomique qui est récent. Et il y a une partie du savoir astronomique qui n'existe pas encore. Donc je pense, même en conseil pour les parents, c'est pas grave de pas savoir. Ce qui est super, c'est d'aller vérifier avec les enfants, de les prendre par la main et de leur dire « viens, on va regarder sur Internet, on va demander, on va prendre un bouquin, on va chercher ensemble ». Parce que c'est absolument normal de pas savoir toutes ces choses-là. Faut pas se dire « j'étais nul à l'école, donc je sais rien aujourd'hui, donc je vais transmettre quelque chose de pourri à mes enfants ». Non. L'idée, c'est « allons chercher ensemble ». Il y a une curiosité par rapport à l'espace qui est au-delà du scolaire. Je fais une petite parenthèse parce qu'en écoutant tous les enfants parler, ça m'a fait penser à une image qui est dans Le Petit Prince, l'image du renard. Le renard, si quelqu'un voit un renard comme ça dans la forêt ou n'importe où, bon, c'est mignon, mais au fond, on s'en fiche pas mal. En revanche, dès l'instant où il est apprivoisé, où c'est notre renard, là, ça change tout. C'est un peu pareil avec l'espace et avec la Terre. Tant qu'on, oui, elle est là, on n'y pense pas trop, c'est quelque chose. Mais dès l'instant où on voit l'espace, dès l'instant où on voit ces autres planètes, ces distances, etc., on se réapproprie notre propre monde et on a envie de le protéger. On se rend compte de ce petit écrin qu'il a dans un univers gigantesque et on a envie de se le réapproprier. Voilà, pardon, fin de parenthèse.
Elle est très bien, cette parenthèse.
Je peux retourner sur les couleurs, si vous voulez.
Oui, dites-moi la différence entre les tailles et les couleurs. Cette diversité qui fascinait l'enfant qu'on vient d'entendre.
Alors, la couleur, il y a un enfant qui a bien répondu. S'il y a de l'eau, par exemple, comme sur Terre, bon, ça va faire des petits reflets bleus. Si c'est un peu rouillé, parce qu'il y a eu de l'oxydation, ça devient un peu rouge. C'est comme Mars. S'il y a des éléments qui sont gelés ou des molécules gelées dans l'atmosphère, ça va dépendre un peu de ces molécules-là. Mais Neptune et Uranus, les deux dernières qui sont un peu bleues, si je me souviens bien, mais je me souviens pas exactement de la composition de ces atmosphères, mais ça va être des hydrocarbures gelés. Les surfaces, par exemple, de Titan, qui est une lune de Saturne, si on regarde la surface comme on l'a prise en photo, on voit qu'il y a des roches qui sont foncées et des lacs noirs. Eh ben, ça, ce sont des océans de méthane liquide qui sont là-bas. Ça va vraiment dépendre de la distance par rapport au soleil, la température, de la chimie des endroits. Et on a plein de mondes différents.
Aller chercher les réponses ensemble, parents et enfants, en se plongeant dans des bouquins, ce que disait à l'instant Christophe Galfard, on peut le faire avec vos livres, Anne Jankeliovitch. Est-ce que c'est la démarche qui vous anime d'apprendre en même temps aux parents et aux enfants?
Oui, mais les livres, ils sont, je pense, conçus pour être lus tout seul. Mais moi, j'ai vraiment envie de rêver qu'ils soient lus ensemble avec les parents. Je pense que c'est tellement plus riche parce que c'est le support d'un échange. Ça permet aussi de se faire expliquer des choses. Ça permet aussi aux adultes, encore une fois, de mesurer le peu de choses qu'ils sont en mesure d'expliquer. Et ça va peut-être donner cette impulsion et faire cet effet de levier qui va emmener tout le monde, soit dans un planétarium ou dans un observatoire ou à prendre contact avec une association. Je pense que ça, c'est vraiment une super étape aussi au-delà du livre, parce que le livre, c'est un super support, mais rien ne vaut l'observation réelle et rien ne vaut aussi le discours d'un passionné. Et aller ensemble pendant les vacances dans un observatoire, c'est des moments inoubliables. C'est du rêve en les yeux ouverts. Et puis c'est là qu'on apprend des choses, qu'on s'émerveille encore plus parce que en face on a des passionnés, souvent des amateurs, qui ont été emportés par leur passion et et qui ont des sommes de connaissances incroyables à partager. Et ça fait vraiment des moments incroyables. Et aussi, et ça apporte cette connaissance.
Nous poursuivons cette balade spatiale dans un instant. Voici FKA Twigs sur Inter, Darjeeling. You're not alone.
Par Patrick.
Away to the end of time. Right. Open your mind. Surely it's plain to see. AOT attract superstar. Crystal Palace, brap, brap, brap. Lymph at Christie Stadium. Every Tuesday, flagging a boy. Athletes low key, capping the law. Croydon College, stacking up wall. Love so big, I gave him my all. East or south, we're dreaming it all. Body hot like cooking for long. We like to make love like whilst the dogs. I was on his side, 55 to making a pro. Body hot like cooking for long. We like to make love like whilst the dogs. I was on his side, east or south, we're dreaming it all.
Ran towards the last thought I could found, yeah. Something bigger than the town that I had left behind. I remember packing on my bags, not saying my goodbyes. Warsaw used to be a place I'd only ever start my dreams in, but home is where my heart is. Feel so alone in a city so big, cause I used to know the person that lived at 23 and try to smell the flowers that weren't on the common green. Getting off the 6 oysters just to spend my 30p.
And I was just getting to know myself, the city it broke me in. Inside, dialing my confidence up about my hair and my skin, yeah. You're not alone, I'll wait till the end of time. Open your mind, surely it's plain to see.
AOT attract superstar, Crystal Palace, brap, brap, brap. Lymph at Christie Stadium, every Tuesday flagging a boy. Athletes low key capping a lot. Croydon College stacking up what? Love so big, I give my all. East or south, we're dreaming of.
Listen,
all.
Had to clean up my heart, mind, body and soul. The London city's my home. She love me, fair, come babe, leak at your toes. Put bricks in the sticks, come we remake dough. Invest my flow to my young boy, look in your book and grow. Back then, he's the boot, like we do up pro. Now his fins, we part from the block back days, cause we show down shows. Shows. Should I choose that Gucci or LV coat? Yo, I'm black and no hood on glow. The bandos beaming, my pastry comes from rotating phones. Gun step to the hood's gone clear, so much patience is greatness, can we bacon toast? Don't go scar practice, means perfect, girl, if you don't know, leave it to me, uncle.
Started at a country girl, while he heading every grand. Had to change a couple schools, cause I wasn't fitting in. Take it straight to London, dream it big and let it grow, just so you know. Feel so alone when the city gets cold. I've known that I'd make it since I was a young girl. The world is right there, I hear it calling. But home is
is a place that makes my heart sing. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time to be with me.
Nous parlons du système solaire cette semaine dans Barbatruc, le système solaire à hauteur d'enfant, avec Christophe Galfard qui est physicien et avec Anne Jankeliowicz, autrice de livres jeunesse. Une question, Christophe Galfard, de quelle couleur est le soleil vu de l'espace ?
Ah bah oui, on a l'impression qu'il est jaune,
mais non,
il est surtout blanc, parce qu'il contient toutes les couleurs que nos yeux peuvent voir qui sont mélangées. Et quand on mélange toutes les couleurs, ça fait du blanc. Alors vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il est jaune dans le ciel ? Parce que notre atmosphère, le ciel de la Terre, prend la lumière bleue qui est dans ce blanc, parce que le bleu rebondit sur toutes les poussières qui sont dans le ciel autour de nous, et part dans toutes les directions. Ce qui fait que le bleu n'est plus dans les rayons du ciel qui viennent jusqu'à nous. Et lorsqu'on enlève le bleu au blanc, ça donne du jaune. C'est pour ça qu'on voit le soleil jaune.
Donc le soleil n'est pas jaune, mais on le voit jaune.
Il est plutôt blanc.
En tout cas, cette question de quelle couleur est le soleil vu de l'espace, c'est ainsi que démarre votre trilogie de romans pour ados, Le Prince des Nuages, aux éditions PKJ. C'est un livre pour ados, jeune adolescent, plutôt,
oui, plutôt 9-12 ans.
9-12 ans, d'accord, ouais. Pré-ado. C'est un roman d'aventure et de vulgarisation scientifique. C'est pas très fréquent en littérature française.
Non, j'avais entendu parler d'un auteur pas très connu qui s'appelle Jules Verne.
Ah oui.
Et j'ai eu envie de refaire un petit peu la même chose que ce qu'il avait fait lui, mais de m'adresser directement, voilà, aux petits de 9 à 12 ans, aux grands petits, disons, ou aux petits grands, et de leur permettre d'accéder à une connaissance à travers des vraies histoires d'aventure. La question de la couleur du soleil vu de l'espace, c'est un contrôle que doit auquel une question
ça commence par un contrôle, ce roman. C'est sympa, hein, comme plongée dans l'histoire.
Exactement, surtout que le héros qui s'appelle Tristam, il est complètement nul. Il ne comprend rien à rien et il raconte n'importe quoi comme réponse. Il se fait probablement virer de la classe derrière. Mais l'idée, c'est de pouvoir accéder à des connaissances qui peuvent paraître abstraites, mais qui ne le sont pas tant que ça. Même la taille de l'univers, ça peut être extrêmement abstrait, mais pas tant que ça. Il y a des choses auxquelles on s'habitue, finalement.
C'est une manière de planquer vos intentions, clairement, Christophe Galfard. Vous voulez leur apprendre des choses, mais discrètement.
Vous savez, si on arrête de l'apprentissage de la science et de la physique aujourd'hui, dans deux générations, la Terre redevient plate, le Soleil se remet à tourner autour de la Terre. C'est un apprentissage, tout ça. Notre intuition, quand on regarde sans connaissance du tout le monde qui nous entoure, le Soleil clairement tourne autour de nous. La Terre est clairement plate. C'est grâce à un savoir, c'est grâce à des centaines et des centaines d'hommes et femmes qui nous ont précédés, qu'on a accès à un monde qui est beaucoup plus vaste que celui qui existait avant.
Et il faut préciser que ce Tristam, le héros de vos romans, il habite sur les nuages.
Il habite dans un village qui est au-dessus des nuages, parce que la Terre est un petit peu polluée, du coup tout le monde s'est installé là-haut.
J'aimerais qu'on insiste aussi, Anne Jankeliowicz, sur un aspect important de vos livres. Il y en a certains qui sont phosphorescents. Donc c'est comme les étoiles et les lunes qu'on colle au plafond des chambres de nos enfants. Vos livres, quand on les ouvre, ils brillent dans la nuit.
Oui, il y a certaines pages qui brillent, pas toutes.
Il faut les recharger avec une lampe de poche.
Voilà, c'est un principe, effectivement. Si on l'ouvre après l'avoir laissé un mois dans l'étagère, il va pas briller. Il faut mettre un petit peu de lumière dessus. Et après, si on éteint la lumière, on le voit briller. En fait, cette histoire des étoiles au plafond, c'est un petit peu de là qu'est venue l'idée de Constellation, le premier de ces trois livres phosphorescents.
Il y en a un autre qui est consacré au système solaire, justement. Voilà.
Et un autre aux petits animaux de la nuit. Et en fait, moi j'ai constaté que c'était difficile en fait de montrer dans le ciel. On pointe avec le doigt, on dit mais si là, regarde cette étoile.
Bon, à droite du machin, là, mais si, voilà. Tu sais.
Et en général, personne ne trouve et ça agace tout le monde. Et l'avantage de Constellation, c'était que voilà, on a représenté les constellations, donc on les voit et on a exactement la même forme. Et c'est beaucoup plus facile de repérer après dans le ciel une forme qui ressemble.
Voilà, c'est un peu comme un point de vue quand on est en montagne, quoi. C'est un plan pour mieux repérer ensuite ce qu'on voit. Ce qu'on a sous le nez.
C'est ça, c'est Google Maps.
Christophe Galfard.
Juste quelque chose par rapport au livre d'Anne et aux livres de vulgarisation pour les tout-petits, comme ça. Il y a quelque chose qui est génial, je trouve, dans l'idée où on leur offre une base à leur imaginaire d'adulte qui est beaucoup plus vaste que celle que nous avons eue ou que nos ancêtres ont eue. On vit dans un temps où on ne s'en rend pas vraiment compte, mais il y a une sorte de ruée vers l'espace qui recommence à nouveau. Ça, c'est pour les adultes surtout que je dis ça aussi. Mm-hmm. Il y a une vraie, malheureusement, conquête, on peut l'appeler comme ça, de l'espace qui recommence, de combats entre nations, de combats économiques qui sont en jeu en ce moment même, même si on s'en rend pas vraiment compte. Et de faire en sorte que les prochaines générations aient le savoir scientifique de base de notre système solaire, de l'environnement spatial, de l'environnement terrestre, permettra, je l'espère, que l'humanité fasse les bons choix dans les années à venir aussi.
De l'importance des livres, donc. Mais il n'y a pas que l'espace au rayon jeunesse des librairies. Il est temps à présent de retrouver Denis Chessou pour un aperçu de l'actualité du livre pour enfants. Au programme cette semaine, pas mal de poils. Venise avec des chats et un chien vieillissant. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz en France Inter. Là tu l'es, mon petit loup.
Bonjour Dorothée. Et oui, des animaux en effet. On débute par Les Contes du Vaporetto de Didier Lévy et Tiziana Romanin aux éditions Sabacane. C'est pour les 5-8 ans. Vaporetto, donc Venise, décor de rêve pour trois contes où les chats tiennent grande place avec le capitaine Marco qui sillonne les canaux toute l'année. Comme le Vaporetto est interdit aux chats, il se déguise.
À Venise, on a depuis longtemps un certain talent pour les déguisements.
Ils se laissent pousser la moustache de toutes les façons possibles et inimaginables.
Ils enfilent des habits de leur invention et montent dans le Vaporetto sous l'œil amusé du capitaine.
Mais quand les pigeons, autres vedettes de la ville, se pose sur les rambardes ou le toit du bateau, l'instinct reprend ses droits.
Les déguisements volent en éclats.
Et puis, c'est le Vaporetto des amoureux qui nous attend.
Il y a tellement d'amoureux et d'amour sur le bateau qu'il finit par se dilater et prendre la forme d'un cœur.
Du coup, il y a des canaux dans lesquels le navire n'arrive plus à passer.
Ici votre commandant. Il y a trop d'amour dans ce bateau, nous allons devoir patienter jusqu'à ce que certains d'entre vous finissent par se disputer et nous pourrons alors repartir.
Bref, la comédie est à fleur d'eau dans cet album qui se termine par un troisième petit conte où un Père Noël, une tombola et un livre ouvriront la porte de la lecture et renforceront le bien-être familial.
Donc Denis, tous les personnages se déplacent dans le Vaporetto du capitaine Marco.
Oui, et chacune des trois histoires s'ouvre par un volet dépliant pour entrer en deux temps dans la narration et créer un triptyque en tournant la page. Un peu de mystère, de drôlerie et de merveilleux.
Rien d'étonnant dans la cité des doges où se sont noués et dénoués tant d'intrigues.
Et puis le travail quand même d'une grande artiste, Tiziana Romanin, née dans la province vénitienne, forte en scénographie, qui utilise subtilement l'aquarelle en faisant circuler le blanc autour des dessins. Les Contes du Vaporetto, Didier Lévy, Tiziana Romanin aux éditions Sarbacane, c'est pour les 5-8 ans. Édouard et Patoun d'Espendeco et Marie Constat Jonsen aux éditions Albin Michel Jeunesse, c'est traduit par Jean-Baptiste Courceau. C'est à partir de 3-4 ans jusqu'à 7-8 ans. Ce livre Made in Norvège célèbre la force de la relation entre un enfant et son chien. Bon, alors jusque-là, vous me direz, on a lu 200 albums sur le thème, mais pas sur le vieillissement de l'animal. Patoun est donc plutôt jeune et il est souvent fatigué.
Patoun rêve, il rêve de lapin. Autrefois, il courait après eux et aujourd'hui, il en rêve.
Et si on sortait, Patoun ?
Il remue la queue.
Oh oui, mais alors juste un peu. Édouard a sûrement besoin de prendre l'air, pense-t-il.
Mais il n'a plus besoin de courir. Il a assez couru.
Il aime les petites pauses, se reposer quand Édouard croise un copain. Alors Édouard lance un bâton.
Le bâton disparaît.
Ah ouais, mais c'est Édouard qu'il cherche.
Et Patoun attend.
Texte simple, épuré, comme la fin d'une vie, on comprend tout. L'amitié, la forme d'amour qui relie l'enfant depuis qu'il est né et son chien.
Édouard appelle Patoun. Il ne veut pas entendre. Il n'a pas soif, il n'a pas faim, il ne veut pas sortir. Il veut juste rester couché dans le lit d'Édouard et rêver aux lapins qui détalaient quand il les coursait.
Patoun sent le cœur d'Édouard battre. Il a les yeux baignés de larmes. Alors Patoun lèche sa main. Édouard en a besoin. Et puis Patoun s'endort, tout à fait.
Il s'endort sans rêver.
Écuelle rangée dans le placard, silence aussi grand que la maison, tout est là. Les odeurs, les bruits, même les lapins, mais pas Patoun.
Alors, Édouard rêve. Il rêve de Patoun qui aboie, remue la queue, trouve des bâtons comme avant.
Illustration colorée de Marika Janssen qui mêle encre, crayon et peinture, qui parviennent à réchauffer le cœur, car il n'y a aucun misérabilisme. Juste un album très bien fait qui apprend subtilement à l'enfant à dire au revoir. Édouard et Patoun chez Albin Michel Jeunesse, c'est pour les 3-4 ans jusqu'à 7-8 ans. Merci à Christophe Imbert pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald-Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures et une bonne fin d'émission, Dorothée.
Merci beaucoup Denis Chessou. On clique à la page de Barbatruc sur le site de France Inter pour retrouver les références des livres recommandés. Je suis toujours avec les deux mordus du cosmos, Christophe Galfard et Anne Jankeliovitch. Nous approchons de la fin de cette émission. Alors vous savez que je procède au fil des semaines à un inventaire olfactif dans Barbatruc. Aussi ai-je besoin de votre réponse à cette question. Quelle est l'odeur de votre enfance, Anne Jankeliovitch?
J'en ai une qui est peut-être pas très glamour, mais qui est la première qui me vient. C'est l'odeur des sièges en sky de la voiture de mes parents. Quand j'étais toute petite, ils avaient une Simca avec des sièges en sky. Et quand cette voiture était garée au soleil, qu'il fallait monter dedans, il y avait une odeur caractéristique. En plus, on se brûlait les cuisses en été, en s'asseyant sur ces sièges. Et je me rappelle vraiment super bien. Je ressens l'odeur en ouvrant la portière.
Christophe Galfard, quelle est l'odeur de votre enfance?
Je vais passer pour un poète raté avec ce que j'ai dit là juste maintenant.
Les sièges de la Simca, ça va contrebalancer. C'est bien, il faut de tout.
Non, moi, c'est vraiment l'odeur de... Ça va paraître bizarre, mais l'odeur de la rosée en fin d'été dans le jardin de mes grands-parents en Suède qui est ancrée en moi.
J'adore les odeurs de la semaine. La rosée suédoise et le cuir de la Simca 1000, franchement. C'est magnifique, on les met sous cloche, ça dessine le parfum de l'enfance.
En Suède,
et d'ailleurs, ça sent quoi dans l'espace, Christophe Galfard?
Alors dans l'espace, sans combinaison, pas grand-chose, parce que les odeurs, ce sont des molécules. Dans l'espace un peu lointain, il n'y a pas de molécules, c'est du vide. Dans la station spatiale, en revanche, personnellement, j'imagine que ça pue, parce qu'il y a des gens dedans depuis 20
qui
ans.
Qui se lavent peu.
Il n'y a pas de fenêtre, ça doit vraiment pas être super. C'est pour ça, je pense qu'ils la brûleront avant de la ramener sur Terre. Mais vu que dans l'espace, il n'y a pas la gravité qui attire notre sang vers le bas, vers nos pieds, notre sang est réparti dans tout notre corps, ce qui fait que ça gonfle nos nez. Ce qui fait que l'odeur est beaucoup moins prononcée. L'odorat est très, très, pâtit beaucoup de cette gravitation qui n'existe pas. Du coup, on sent beaucoup moins les odeurs là-haut dans l'espace.
Et tant mieux pour les pensionnaires de la station spatiale.
Une bonne chose. Comme quoi les choses sont bien faites.
Quelque chose, malheur est bon. À lire à partir de 9 ans, Le Prince des Nuages de Christophe Galfard, un roman d'aventure et de vulgarisation scientifique en 3 tomes. Le Blueberry, Le Matin des Trois Soleils, La Colère du Ciel et du Vent, édition PKJ. Quant aux grandes personnes, on leur recommande E=MC2, l'équation de tous les possibles de Christophe Galfard. Et puis je rappelle que vous animez des conférences à Paris, dans les cinémas MK2, prochaines les 19 et 20 mars, sur cette question: le temps existe-t-il? Des livres à lire à tous les âges, à lire en famille, effet waouh garanti. C'est le pop-up Lune et le pop-up Terre, bouquin construit en relief donc d'Anne Jankeliovitch aux éditions de La Martinière. Je n'oublie pas Constellation, livre phosphorescent à lire sous les étoiles, tout comme Système solaire. Et puis, toujours à La Martinière Jeunesse, ce livre le plus récent, je crois, Royaume minuscule, ce sont des histoires d'insectes, Anne Jankeliovitch?
Oui, des insectes sociaux, donc c'est pas n'importe quel insecte. Et des insectes qui ont énormément de choses à nous apprendre, enfin qui sont surtout fascinants par leur organisation, leur mode de vie, leur habitat. C'est un peu renversant aussi ça.
Voilà, pour suivre les fourmis à la trace. Et là aussi c'est un livre avec des reliefs, des machins qui se déplient et des trucs qui se déploient. C'est magnifique. Toutes les infos sont à la page de l'émission. Un grand merci jusqu'à la lune à vous deux. Et à bientôt sur Inter.
Merci
à bientôt.